Chers auditeurs, qu'est-ce que vous pensez de la foi chrétienne? Est-ce que vous pensez que c'est juste une croyance parmi d'autres, que même certains diront un mythe parmi d'autres, ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, d'exclusif à la foi chrétienne? Est-ce qu'il y a quelque chose de fondamentalement vrai dans la foi chrétienne qu'on ne retrouve pas ailleurs? Alors, c'est la question que je vais poser avec mon ami, mon invité, Sylvain. Bonjour, Sylvain.
Salut Pascal.
Merci d'être à nouveau à parole à propos. Donc, tu me parlais de ce dont tu voulais me parler. Hein? Ça va de soi. En fait, c'est ton petit côté apologète a été piqué au vif par un documentaire qui circule sur Internet, Zeitgeist. C'est ça, je pense, c'est en allemand. Ça veut dire quoi?
Je ne sais pas, c'est l'esprit de quelque chose.
Ok. Alors c'est un documentaire qui circule sur YouTube, je pense, et qui veut se présenter comme une démonstration de la fausseté du christianisme. Et on va déconstruire. Donc dans ce documentaire-là, on essaie d'expliquer pourquoi est-ce que le christianisme est erroné. Et donc Sylvain a entrepris de répondre à certains des arguments qui sont présentés là, parce que ce sont des arguments qui sont véhiculés, qui sont des idées reçues parfois, ou qui sont des arguments qu'on entend, des arguments populaires. Alors le premier voulant l'argument voulant que le christianisme finalement a connu une telle un tel développement dans le monde, un tel apogée dans l'histoire, en raison de la place que Constantin lui a donnée. Mais que il y a rien de distinctif et de vrai comme tel dans le christianisme, qui en a fait une force particulière pour qu'il puisse s'enraciner autant dans les cultures et dans l'histoire et qu'il prenne autant de place. C'est finalement, on doit à Constantin la place que la foi chrétienne a occupée en Occident. Est-ce que c'est à peu près ça?
Oui, mais je voudrais aussi mentionner, pour commencer, une parenthèse sur Zeitgeist, que c'est pas tout le documentaire qui porte là-dessus. En fait, c'est seulement la première des trois parties. Et ensuite, le documentaire embarque dans des théories du complot avec le 11 septembre. Et donc, c'est assez rocambolesque là, si on prend le documentaire dans son ensemble. Donc, moi, c'est vraiment la première partie de ce documentaire-là qui avait retenu mon attention, puisque ça je voulais une déconstruction de la crédibilité du christianisme.
Alors,
Et, ouais, et donc, c'est ça. Pour ce qui est de Constantin, qui était empereur de Rome au début du 4e siècle, et qui a été l'empereur aussi qui a fait en sorte que le christianisme est devenu la religion d'État de l'Empire romain. Et que je suis à la conclusion de cette première partie-là des Zeitgeist, c'est de dire, ben voilà, elle est là la cause de la montée fulgurante du christianisme en Occident.
Dan Brown aussi, il l'a dit, là.
Oui, bon, ils ont plein de sources qui se confirment mutuellement. Mais ce qui est quand même remarquable avec ce documentaire-là est justement de dire que je pense que ça durait une vingtaine de minutes, cette première partie-là, et les 18, 19 premières minutes ne font qu'énumérer une série de similitudes entre l'histoire du Christ et l'histoire de divers dieux païens pour dire qu'au fond, Christ est vraiment l'un des leurs, est vraiment un dieu
Un
païen
mythe
parmi d'autres.
parmi d'autres qui a été pris finalement par un empereur puissant et qui l'a consacré comme mythe absolu là.
C'est ça, qui a obligé tout le monde à vénérer Christ et interdit la vénération des autres dieux. Et voilà pourquoi le christianisme a eu une telle importance en Occident. C'est ça la thèse du documentaire. Ce qui m'a marqué, c'est justement à quel point la question est abordée très, très rapidement, sans essayer de la défendre, comme si c'était une évidence logique et intuitive, que l'empereur du monde connu de l'époque, l'empereur romain tout-puissant, choisisse une petite secte judaïque obscure dont personne n'aurait entendu parler avant comme religion d'État. Il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans cette idée-là.
Ah
Parce que
oui,
j'étais un
effectivement.
des arguments d'avant dans le documentaire, et de dire que même, il n'y a pas vraiment d'historiens à l'époque qui ont parlé de Jésus, qu'il y a comme un ou deux historiens grecs qui l'ont vaguement mentionné. Et donc, il n'a peut-être même pas existé pantoute. Donc, vraiment, comme quoi le christianisme serait une secte judaïque vraiment obscure que les historiens n'ont même pas enregistrée, mais que 400 ans plus tard, l'empereur du monde connu en a fait la religion d'État.
Un phénomène marginalisé. Ben, en fait, c'est historiquement, c'est faux, parce qu'on sait que dans le premier siècle, on retrouve des traces, des mentions de l'existence historique du Christ, mais très abondamment des mentions des chrétiens. Dans les registres officiels, Pline à Trajan, dans ses lettres et tout ça. Alors, il y a moins peut-être, je parle dans l'histoire, dans les récits des historiens séculiers, des mentions sur l'existence du Christ, mais sur la présence des chrétiens, déjà au premier siècle, encore plus au deuxième et certainement plus au troisième siècle.
Ben c'est ça. Non, c'est précisément ça mon point, là, de l'argumentaire qui, en réponse à cette hypothèse-là de Zadkaïs, montre que l'idée même est insensée. Parce que ce qui s'est passé, très clairement, d'un point de vue historique, et c'est plus logique aussi, plus rationnel, c'est de dire que à partir du début du premier siècle jusqu'à la fin du troisième siècle, au début du quatrième siècle, ben le christianisme a connu une montée rapide et constante à travers tous les peuples de l'Empire romain, et que c'est pour ça qu'au quatrième siècle, ben il y avait quelque chose de naturel, de cohérent dans l'idée que Constantin efface la religion d'État, mais que c'était pas du tout une la cause de la montée du christianisme n'a pas été son officialisation, c'est l'inverse.
Mm-hmm.
On l'a officialisée parce qu'elle avait connu une montée fulgurante. Elle n'a pas connu une montée fulgurante parce qu'on l'avait officialisée.
Mmh, c'est fondamental de comprendre le sens. Et qu'est-ce qui est la cause de quoi?
Mmh. C'est ça. C'est vraiment une question de crédibilité historique. Là, parce que le christianisme prétend être quelque chose d'extraordinaire, de vraiment, vraiment extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Alors que certains historiens ou certains préjugés vont dire que non, c'est une religion parmi les autres. Mais pourtant, quand on regarde sa place dans l'histoire, la façon dont elle est née, la façon dont elle a connu une expansion durant les premiers siècles de son existence, c'est définitivement quelque chose d'extraordinaire. Aucune religion a connu une expansion de la sorte. Toutes les religions, normalement, existent dans une certaine culture, puis restent dans cette culture-là. Si elles se répandent, elles se répandent très progressivement avec les mouvements de population. C'est pas des conversions de peuples, c'est vraiment que des peuples qui ont des religions, qui se déplacent avec leur petite religion locale. Or que le christianisme, en quelques siècles, s'est répandu dans toutes les dans tous les peuples de l'Empire romain de façon fulgurante, avec des croyants passionnés qui étaient zélés, qui étaient prêts à se martyriser pour témoigner de leur foi.
Ben, alors la question à laquelle on va tenter de répondre, c'est pourquoi est-ce que le christianisme peut pas être un mythe comme les autres? Bon, c'est sûr qu'on pourra pas répondre à la question de manière exhaustive, mais Sylvain, t'as deux raisons fondamentales pour lesquelles le christianisme peut pas être simplement laissé au rang de la mythologie, il peut pas être simplement considéré comme une religion païenne comme on a dans le paganisme.
Mm-hmm.
Et donc, pourquoi?
Ben, en effet, donc, je dis, même si on prend le point de vue d'un incroyant, même si on prend le point de vue de quelqu'un qui pense que la religion est fausse et que le christianisme est donc un mythe au sens qu'il serait faux, on ne peut certainement pas dire qu'il est comme les autres. On ne peut certainement pas dire que le christianisme est une religion comme les autres, parce qu'elle a certaines caractéristiques fondamentales qui sont très distinctes de n'importe quelle autre religion et qui ont, entre autres, causé l'expansion phénoménale dont on parle et qui sont aussi les caractéristiques dont on s'attendrait d'une religion qui connaîtrait la vérité. Donc c'est la prétention là, c'est donc l'affirmation qu'on va essayer de faire valoir.
Oui, parce que pour ceux qui sont moins familiers avec la foi chrétienne, le christianisme prétend être la vérité et la vérité exclusive. On n'est pas beaucoup dans la théologie des gros bisous, de tout le monde est gentil, tout le monde est fin, puis tout le monde a raison, puis on s'ostine pas, puis ce qui est important, c'est qu'on s'aime, puis qu'on se tienne par la main en chantant des belles chansons d'amour. Ça, c'est pas le christianisme. Le christianisme déclare, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il l'article définit le chemin, la vérité et la vie. Vient faire une affirmation exclusive. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre vérité. Et donc, il y a des raisons pour croire que le christianisme, en affirmant ceci, ben, a raison de le faire. En tout cas, ce que Sylvain va nous démontrer, c'est que finalement, même si on ne croit pas qu'il est la vérité, on ne peut certainement pas le comparer au mythe ou aux religions païennes.
Mmh. Ça, en effet, donc il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc, pourquoi il serait la vérité, c'est certainement pas ça que j'essaie de démontrer maintenant. Tout ce que je veux, moi, c'est le regard que je porte aujourd'hui dans la discussion, c'est uniquement d'un point de vue historique, vraiment anthropologique ou historique, de voir comment le christianisme est apparu, de voir comment il s'est développé, de voir quelles étaient ses caractéristiques principales. Et donc de le distinguer, de voir à quel point il est distinct de toutes les autres religions dans l'histoire de l'humanité, à part le judaïsme et l'islam, qui sont dans le même bassin religieux, je dirais, là, des religions abrahamiques. Donc, d'un côté, il y a le refus des idoles. Et ça, c'est quelque chose qu'on se rend pas compte à quel point c'est extraordinaire, parce que nous, on est un peu habitués à cette idée-là, là, comme que de voir des chrétiens ou des musulmans rejeter les autres dieux. Mais dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose d'absolument unique. À l'époque du premier siècle, à l'époque où Jésus a vécu et a fait son ministère, partout à travers le monde, on regarde en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, en Égypte, en Inde, partout, on avait affaire à des religions qui n'étaient pas du tout exclusives. C'est-à-dire que chaque peuple avait son dieu ou leur dieu, et les autres peuples avaient leur dieu à eux aussi, et c'était bien correct, il n'y avait pas de chicane, on pouvait avoir des temples côte à côte, on pouvait même avoir plusieurs dieux de différentes cultures dans un même temple, aucun problème.
C'était une conception polythéiste de l'univers, du monde.
Tout à fait, tout à fait. Donc, on vénérait une partie de l'univers et c'était bien correct comme ça, il n'y avait pas de chicane. Alors que les Juifs, le seul peuple auquel on peut identifier cette caractéristique-là, qui non seulement ne vénérait un autre dieu, un seul dieu, ça, il y a d'autres peuples aussi qui vénéraient un seul dieu, là, qui étaient monothéistes. Mais les Juifs, non seulement étaient monothéistes, mais ils étaient farouchement opposés à l'idolâtrie. C'est-à-dire que si on se mettait à vénérer d'autres choses que Dieu, et le fait que les autres peuples vénéraient d'autres dieux était vu comme des choses condamnables, comme de l'impiété. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Donc, ça peut sembler pas du tout séduisant dans un esprit moderne, tu sais, qu'on est pour l'inclusivité, pour la tolérance et tout. Mais c'est pas du tout la question dont je veux discuter. C'est juste parler à quel point c'est extraordinaire dans l'histoire, à quel point c'est unique dans l'histoire, ce que les Juifs avaient comme attitude par rapport à leur religion.
Alors, c'est un argument en faveur de l'unicité de la foi biblique, là.
Exact, exact. De la foi abrahamique, qu'on pourrait qualifier. Ça a commencé avec Abraham. Donc ça, c'est d'un côté. Et on peut deviner que ça a vraiment fait des Juifs un peuple distinct à bien des égards, qui entre autres était très, très difficile à gérer pour l'Empire romain, parce que dans l'Empire romain, encore une fois, il fallait vénérer l'empereur, qui était le dieu officiel dans l'État, et les Juifs se sont toujours obstinément refusés à faire ça. Donc ça a été toujours un peuple très, très difficile à gouverner pour les Romains pour cette raison-là. Donc ça, c'est la première des unicités du christianisme qui a hérité du judaïsme. Et c'est pas une unicité banale, là. On parle de c'est quoi l'objet de notre vénération. Donc, c'est pas un détail. C'est pas juste la façon dont on organise nos rituels ou c'est pas un petit détail esthétique de la religion, là. C'est vraiment central à ce qu'est une religion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vénère. Donc, c'est ça. Rejet des idolâtries. Rejet de l'idolâtrie. D'un autre côté, et ça, c'est vraiment plus propre aux chrétiens, au christianisme, c'est un prosélytisme. Le prosélytisme, ça veut dire la volonté, l'action de vouloir convertir des nouveaux croyants à notre religion. Et un prosélytisme, encore une fois, d'un zèle extraordinaire, d'un zèle martyr. Les chrétiens ont une foule de récits allant dans ce sens-là, de chrétiens qui étaient prêts à se martyriser, à se faire tuer, à se faire torturer, à se faire humilier.
Et je pense que c'est important d'expliquer aussi ce que veut dire le mot martyr, hein. Ça vient du grec martyreo, qui veut dire rendre témoignage. Ça veut pas dire se faire immoler. Le mot martus en grec, c'est un témoin. Alors, ils ont témoigné jusqu'à quel point? Jusqu'au point de donner leur vie. Et ça, c'est une caractéristique quand même distinctive des autres religions où des personnes vont mourir pour leur foi. Souvent, mourir pour sa foi comme kamikaze, c'est pas la même chose que de mourir pour sa foi comme un martyr. Le kamikaze va provoquer la mort puis va entraîner des gens dans sa mort, mais le martyr veut pas nécessairement mourir puis veut pas entraîner personne dans la mort, mais c'est qu'à cause de sa foi, parce qu'il continue de témoigner, il y a des gens qui leur disent qui vont les mettre à mort s'ils veulent pas vénérer l'empereur ou les dieux, et ils sont prêts d'aller jusqu'à la mort en rendant le témoignage qu'ils rendent. Et ça, c'est
oui, comme... et parfois on pouvait juste leur demander de garder le silence. On disait garde le silence et tu vas rester en vie, et les martyrs disaient non, vous allez me tuer avant que je cesse de proclamer ma foi.
Et ça, c'est unique.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, t'as bien raison de préciser le sens du mot martyr et les implications que ça a, de dire que la motivation du martyr n'était pas de se sacrifier comme les kamikazes que tu cites, ou encore comme certains hindous qui s'immolaient pour une raison ou pour une autre, où là, vraiment, l'intention était de mourir. Les martyrs n'avaient pas l'intention de mourir, ils préféraient vivre. mais ils étaient prêts à mourir pour annoncer leur leur foi.
Et c'est donc parler d'une conviction. Et le mot martyr, on dit, il veut dire témoin. C'est vraiment important parce que les premiers qui témoignaient étaient des témoins. C'est des gens qui ont dit, nous avons vu le Christ ressuscité. Nous avons mangé en sa compagnie après qu'il soit revenu de la mort. Alors, c'est pas simplement des seconds témoins, des gens qui, comme nous, croient sur la base de témoignages qui leur ont été rendus, mais ce sont des premiers témoins, des gens qui ont vu directement les choses qui sont attestées, qui est le cœur de la foi chrétienne.
Alors, tout à fait. Donc, les sceptiques peuvent continuer à douter de ce qui a été vu, effectivement, ça serait un autre débat. Mais une chose est sûre, c'est que ça a eu un effet extraordinaire dans l'esprit de ces gens-là, qui étaient des juifs à la base, donc qui refusaient les idoles, et qu'on a rajouté cette deuxième caractéristique-là, d'être prêts à se martyriser pour être des prosélytes, pour aller à proclamer leur foi à travers le monde.
Et c'est vrai que ça a eu tout un effet. Tertullien, qui est un grand apologète, un avocat comme toi, disait que le sang des... Parce qu'avant, il était opposé aux chrétiens, puis il s'est converti en raison du témoignage des martyrs, et il disait dans son apologie à l'empereur que le sang des chrétiens est de la semence de chrétiens. Plus vous nous foulez, plus vous versez notre sang, plus il va y avoir de chrétiens, parce que voici ce que fait le sang des martyrs.
Oui, donc les deux caractéristiques unique au christianisme dont on parle, le prosélytisme martyr d'un côté et le rejet de l'idolâtrie. Ce sont donc les deux caractéristiques qui expliquent de façon beaucoup plus logique, de façon beaucoup plus cohérente, la montée du christianisme pendant ces premiers siècles et non pas l'officialisation de la religion par l'empereur Constantin, comme on parlait en début de chronique. Et d'un autre côté, c'est aussi les deux caractéristiques dont on s'attendrait de la religion qui a reçu la vérité. Parce que si on a la vérité, on ne veut pas la partager avec l'erreur, on ne veut pas la partager avec quelque chose qui n'est pas la vérité, on ne veut pas la diluer. Et aussi, la vérité, c'est quelque chose de bénéfique, qui apporte du bien, et qu'on veut partager avec les gens parce qu'on veut du bien aux gens. Donc vraiment, si la vérité existe, si une religion a reçu la vérité, ben on s'attendrait que cette religion-là ait les deux caractéristiques que possède le christianisme, c'est-à-dire le prosélytisme martyr et le rejet de l'idolâtrie.
Nous allons donc te retrouver bientôt, Sylvain, pour continuer à défendre cette foi qui a été défendue par d'autres avant nous et qui a coûté cher à nos prédécesseurs. Merci, Sylvain.
Ça me fait plaisir.